Ce matin, le message que je veux apporter, c'est un peu une continuation, là, même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont à l'Église depuis plusieurs années. C'est une continuation d'une série que j'ai mis de l'avant, que j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de bénédictions à construire. C'est à propos des Je suis de Jésus. Les deux dernières fois, j'étais ici. On a parlé des « Je suis » de Jésus. Et on va poursuivre là-dedans avec la troisième partie de cela, qui s'appelle « Je suis la porte et le bon berger ». C'est ce qu'on va regarder ensemble. On va se lever, si vous voulez bien, pour la lecture de la parole de Dieu. Vous autres, ça va bien?
Amen.
Jean 10, versets 1 à 7, nous dit ceci. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. » Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur, on te remercie pour cette parole qui a été écrite sous ton inspiration, mais il y a plusieurs siècles, mais qui est encore pertinente en 2025. Cette parole a encore la puissance pour toucher nos cœurs, transformer des vies, changer les mentalités. Et on te prie que cette parole, tu puisses la bénir dans les cœurs ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et tous on dit?
Amen.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans l'Évangile de Jean, on voit que Jésus y passe beaucoup de temps avec le peuple et principalement avec les religieux pour révéler vraiment qui il est. Il fait des efforts surhumains pour qu'ils puissent comprendre qui il est, qu'il est le Messie, qu'il est envoyé par le Père, qu'il est là, il est venu en fait pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Et pour accomplir ça, on a vu que Jésus se présente premièrement comme le pain de vie, hein, comme seule nourriture spirituelle qui donne la vie, qui maintient la vie jusque dans l'éternité. Jésus est le pain de vie qui peut te rassasier, qui peut te maintenir dans l'épreuve, qui peut assouvir ta faim pour la vérité, ta faim pour la justice, ta faim pour la droiture, ta faim pour une vie meilleure. Jésus-Christ peut assouvir cette faim. Jésus leur a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi, qui met sa confiance en moi, n'aura jamais soif. Celui qui mange de ce pain reçoit la vie éternelle. Mangeons, buvons, sans rien payer. Vous tous qui avez soif, Jésus-Christ, pain de vie, est disponible sans limite, free, gratos. Go ahead and have a loaf. » Comme on dirait en Acadie, pack-toi la face. Puis, on a vu que Jésus, à la suite d'une visite au temple où se déroulaient les célébrations de la fête des tabernacles, alors le temple brillait d'une lumière qui éclairait toute la ville. Et là, il est allé d'une autre déclaration, il dit, « Je suis la lumière du monde. » On a vu qu'avec notre compréhension contemporaine de la lumière est nécessaire à la formation de la nourriture. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Et ce n'est pas surprenant que la Genèse commence le récit de la création avec « Et la lumière fut. » La lumière est bonne pour notre santé. Elle est pleine de vitamine D, de vitamine divine. Jésus-Christ est plein de vitamines aussi, de vitamines divines. La lumière favorise la croissance. La lumière est essentielle à la vue. As-tu déjà essayé de voir à la noirceur? La Bible nous révèle que Jésus est la lumière du monde. De même, Jésus est la lumière du monde. Jésus est bon pour notre santé physique, pour notre santé émotionnelle, pour notre santé spirituelle. Jésus y favorise notre croissance. Lorsqu'on passe du temps dans sa présence, on change, nos mentalités sont changées, notre cœur est transformé, les problèmes s'aplanissent. Ils demeurent souvent, mais notre point de vue change quand on passe du temps dans la présence de Jésus-Christ, dans sa lumière. Jésus, il est essentiel à notre vue spirituelle. Lorsqu'on passe du temps avec Jésus, on peut discerner des choses. On peut voir ce que les autres ne voient pas parce que sa lumière nous donne la vue. Il nous aide à briller. Jésus nous invite à suivre cette lumière, à être habité par cette lumière, à refléter cette lumière, la lumière du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ nous invite à chercher la lumière comme les plantes cherchent la lumière. Vous regardez dans les forêts, les arbres se penchent, ils cherchent la lumière. Et que l'on puisse être comme ces plantes, chercher la lumière. Tendre nos bras vers lui et dire, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, j'ai besoin de voir. Jésus-Christ, fais-moi ta faveur. Ta grâce de me toucher. Et alors qu'on vit dans un monde qui est encore de plus en plus sombre, guerre, bruit de guerre, troubles de toutes sortes, quel privilège nous avons de pouvoir vivre dans la lumière, dans sa lumière, et de briller sa lumière à travers nous, afin que les autres puissent voir qu'il y a une lumière éternelle, Jésus-Christ. Aujourd'hui, on poursuit ensemble ce périple où Jésus continue à se révéler à son auditoire de l'époque et à nous encore aujourd'hui. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 8, on y voit que les pharisiens argumentent avec Jésus. D'où tu deviens, toi? T'es qui, toi? T'es juste un pécheur. Lui, il tente de se révéler. Un long argumentaire. Il tente de se révéler à eux. Ils en ont assez des déclarations de Jésus qui se déclare pain de vie, lumière du monde, je suis avant qu'Abraham fût, je suis. Oh! Ils en ont assez. Et il termine son échange avec eux dans Jean 8, 58 en leur disant, avant Abraham, je suis. Oh, 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 là, ils sont enragés. Oh, ils ne peuvent pas croire qu'est-ce qu'ils viennent d'entendre. Ils veulent pas voir. Au contraire, ils veulent l'éliminer. L'éliminer avant que trop de gens se mettent à croire en Jésus-Christ. Et le dernier verset du chapitre 8 nous dit, dans Jean 8, 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Mais Jésus, loin de se taire, lors de sa sortie du temple, il passe immédiatement de la parole aux actes. Il vient prouver ce qu'il vient d'affirmer. Il vient d'affirmer « Je suis la lumière du monde » et il prouve qu'il est la lumière du monde en faisant voir la lumière à un adulte qui n'avait jamais vu la lumière depuis sa naissance. Jésus voit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché pour qu'il soit aveugle? Est-ce lui ou ses parents? » Jésus répond, « Il est aveugle afin que les œuvres de Dieu puissent être révélées en lui, à travers lui. » Et j'aimerais vous dire ce matin que peu importe l'épreuve à laquelle on doit faire face, peu importe la tempête à laquelle on doit traverser, sache que Dieu permet cette épreuve afin que sa gloire puisse paraître, afin que sa lumière puisse paraître à travers toi, à travers ta vie. ton épreuve. Ce n'est pas nécessairement de ta faute. Ce n'est pas nécessairement parce que tu as péché ou que tes parents sont péchés. Life happens. La vie, ça arrive. Et des fois, on ne comprend pas, mais il y a toujours une raison et une possibilité de briller si on demeure connecté à Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus a fait dans ce texte, dans Jean 9, au verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et après avoir dit cela, il crache à terre, il fait de la boue avec sa salive, puis il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y a là, se lava et se retournant, voyant clair. Le texte nous dit, après avoir dit cela, il crache à terre, puis il fait de la boue avec sa salive. Puis pendant que je lisais ça, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi? Puis là, il m'est venu comme un éclair. Moi, je pense que j'ai une petite idée pourquoi il a fait ça. Je pense qu'il voulait défier les snow-routes pharisiens. Eux autres, puis le loi. Fait que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exprès. Il prend de la boue, il la pétrit. Et pétrir, le jour du sabbat, était interdit. Fait que là, oh, Jésus, il fait exprès pour les narguer. Et il leur démontre que la guérison d'un aveugle est plus important qu'une obéissance à la loi des hommes. Et j'ai fouillé dans un commentaire biblique pour voir si j'avais eu une éclair parce que j'avais eu trop mangé de pizza ou si peut-être l'Esprit de Dieu m'avait comme révélé ça. J'ai utilisé de la boue. Jésus a utilisé de la boue selon ce commentaire biblique parce qu'il savait que c'était le sabbat et qu'il était illégal de pétrir de la pâte, de l'argile ou de la boue le jour du sabbat. L'une des 39 interprétations des pharisiens quant à ce que signifie ne pas travailler le samedi était qu'on ne peut pas pétrir. Jésus savait exactement ce qu'il faisait. « Je veux le faire d'une manière qui enfreint la loi ». La loi telle que les pharisiens la comprenaient, pourquoi voudrait-il faire ça? Parce qu'il voulait démontrer qu'il est le Seigneur et le maître du sabbat. Et que la vie d'une personne, sa guérison, est plus importante qu'une loi religieuse. Jésus accorde plus d'importance à une vie qu'à la loi. Et l'aveugle s'est rendu à la piscine de Siloé. Il revint et il voyait clair pour la première fois de sa vie. Et Jésus prouve qu'il est lumière du monde en faisant voir la lumière à quelqu'un qui n'avait jamais vu la lumière. Imagine sa réaction. Toutes ses couleurs, toutes ses beautés. Oh, il avait entendu parler de la beauté des fleurs, des oiseaux, de l'océan, des nuages. Mais soudainement, à l'âge adulte, pour la première fois, il le voit et il le contemple. Ses voisins, le voyant guéri, se disaient, « C'est-tu pas chaud, ça? Le mendiant aveugle qu'on voyait mendier tous les jours? » Ah, l'autre dit, je sais pas, mais ça y ressemble, hein? L'ex-aveugle de leur répondre, oui, oui, c'est moi, c'est bien moi. Ah, ouais? Comment t'as été guéri? Oh, je l'ai entendu cracher des mains, puis il m'a mis une motte de boîte dans les yeux, puis il m'a demandé d'aller à la piscine, je suis allé, puis je suis revenu, puis je voyais. Ah, ouais? Ah, c'est trop une bonne nouvelle, ça. On va aller compter ça à nos leaders spirituels, les pharisiens, et au temple, parce que là, il faut qu'ils savent, à ceux qui veillent sur nous. On ne peut pas garder ça pour nous autres. Il faut aller le dire au pasteur. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre l'histoire avec moi, dans Jean 9, mais je vais la paraphraser. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'est un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui a ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. » Attends une minute, là. « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. » T'es en train de dire qu'il a pétri, là? « Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » Pourquoi qu'ils peuvent dire qu'il n'a pas observé le sabbat? C'est parce qu'il a pétri de la terre. D'autres dirent, « Comment un homme pécheur, Jésus, hein, parce qu'il a désobéi le sabbat, peut faire des miracles? » Ici, les pharisiens mettent la loi au-dessus des autres, même au-dessus du Fils de Dieu. Question comme ça. Y a-t-il des lois, nous autres, personnelles, qu'on met au-dessus de Jésus? On se fait-tu des petites lois là, qui empêchent des fois que Dieu agisse dans la vie d'un autre? Peut-être, hein? Et là, il y a eu une division parmi eux, hein? Et c'est ça. Quand Jésus agit, parfois, ça cause la division. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle. Ils ne croyaient pas, là, et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. « On ne te crée pas. On va aller demander à ton père et à ta mère. » Et ils les interrogèrent, disent, « Est-ce votre fils que vous dites est né aveugle? Comment ça se fait qu'il voit maintenant? » Ses parents répondirent, « Oh, nous, on sait que c'est notre fils, on sait qu'il est aveugle, mais comment il voit maintenant, là? C'est un adulte, allez lui demander. » Parce qu'il craignait les Juifs. Parce que s'il avait dit, « C'est Jésus, le Fils de Dieu », eux autres, les pharisiens les auraient zigouillés. « Allez demander ce qui s'est passé. » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils qui est aveugle. Allez lui demander. » Voyez comment les opposants de l'Évangile agissent. Ils intimident les autres. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, allez lui demander. » Les pharisiens après appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » En d'autres mots, « Donne pas gloire à Jésus, parce que lui, c'est un pécheur, selon les pharisiens. « Donne gloire à Dieu. » Ici, les pharisiens forcent les autres à dire ce qu'ils veulent entendre plutôt que de se satisfaire avec la vérité. Pour découvrir la vérité, on doit toujours aller là où les évidences nous amènent. Et ici, les évidences menaient vers le fait que Jésus est Fils de Dieu. Mais eux refusaient les évidences, ils préféraient continuer de croire à leur petite religion. Et combien, malheureusement, dans notre société, au lieu de voir les évidences, des vies transformées, des couples restaurés, des drogués délivrés de la drogue, des alcooliques délivrés de l'alcool, préfèrent continuer à croire dans leur petite religion, plutôt que de mettre leur foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Il répondit, cet homme aveugle qui était guéri, s'il est un pécheur, je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, puis à cette heure, je vois. Ça, c'est vrai. On parle en acadien quand on dit « Asteur ». Il faut aller dans le sud-est de la province pour comprendre. Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous ai déjà dit. Vous n'avez pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? » Parce que ce qu'il avait entendu, ça ne faisait pas les affaires. « Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Allô? Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. » Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Nous avons la loi. Mais celui-ci, on ne sait pas. On ne sait pas d'où il est. Et cet homme leur répondit, Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. » Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Voyez-vous pas, gang de pharisiens? Il est pécheur, il ne guérisse pas, lui a guéri. Voyez-vous pas? Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, comme cet homme a fait, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ouvre les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Là, ils sont choqués, là. Parce que là, c'est le mendiant aveugle qui est en train d'essayer de lui donner des leçons, là.
Eux, écoute, les Sanhédrins, les éduqués de la loi, là, ils lui répondirent, « T'es né dans le péché, puis tu nous enseignes! » Et ils le chassèrent.
Les religieux traitent de pécheurs et chassent ceux avec qui ils sont en désaccord. Et ce qui est plate dans notre société, c'est qu'on est incapable d'échanger, d'argumenter. Au lieu de trouver un argumentaire, on insulte. « T'es un qu'un ci, t'es un qu'un ça, va-t'en. » C'est ce que les pharisiens ont fait. Jésus apprit qu'il avait chassé l'aveugle, il le rencontre de nouveau, puis là, il dit « Hey! » « Tu crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Mais, et qui est-il? Qui est-il? » Parce que l'aveugle n'avait pas encore compris que Jésus était le Fils de Dieu. « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Jésus lui répond, « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et là, l'aveugle dit, ou l'ex-aveugle dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. » Et alors que quelques heures auparavant, Jésus avait rendu la vue physique à cet aveugle, il venait de lui rendre la vue spirituelle. C'est alors que Jésus s'adresse aux pharisiens et il va d'une autre déclaration choc. Dans Jean 10, 17, Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, c'est comme des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. » Et là, Jésus parle à ses contemporains en termes agricoles, parce qu'à l'époque, le peuple était principalement de source agricole. Et il parlait dans un langage pour qu'ils puissent comprendre. Et Jésus veut prendre avantage de la scène qui vient de se dérouler et faire le lien entre lui et la porte d'une bergerie. À l'époque, la bergerie, c'était comme un enclos constitué de murs de roches. Sur le dessus, il y avait comme des épines, des broches, comme des barbelés de l'époque. C'était trop haut pour que les moutons puissent passer par-dessus, ils puissent sauter. Le berger, lui, souvent, plaçait des branches épineuses sur le sommet du mur pour empêcher les voleurs de grimper dessus et aller voler les moutons. Puis il y avait une ouverture dans le mur qui permettait aux moutons d'entrer et de sortir. Et le berger, à l'époque, dormait littéralement dans cette ouverture. Il dormait dans l'ouverture pour qu'aucun mouton ne se fasse ou ne se trouve en danger. Il dormait dans l'ouverture pour qu'aucun danger puisse atteindre les moutons. Il dormait dans l'ouverture et il faisait office de porte et contrôlait les il est venu. Ce que Jésus tente d'illustrer aux pharisiens, c'est que le royaume de Dieu, c'est la bergerie du Père. Et que ceux qui veulent entrer dans cette bergerie doivent passer par la porte. Et Jésus est cette porte. Ce n'est ni Moïse, ni la loi, ni la religion, quelle qu'elle soit, religion, Pentecôte, baptiste, si, ça, on ne suit pas une religion, on suit Jésus-Christ. Et Jésus déclare, la porte, c'est moi. C'est moi qui s'ouvre, c'est moi qui ferme. C'est par moi que vous avez accès à la bergerie. C'est moi qui protège les voleurs d'entrer, qui empêche les voleurs d'entrer. Il dit qu'il est la porte, la porte, et non pas une porte. Tous sont les bienvenus, chers monsieur et madame pharisiennes et pharisiens. Mais je ne m'adresse pas à vous, là, je m'adresse à... Mais la seule voie d'accès, la seule porte, c'est Jésus. Jésus dit qu'il est le chemin, la seule porte par laquelle toutes les brebis rentrent. Il est le seul chemin vers Dieu. On est séparé de Dieu, mais Jésus est mort à notre place. La pénalité que mérite mon péché est tombée sur lui. Lui qui était sans péché a accepté ma culpabilité. Lui est mort pour nous afin qu'on ait accès à la bergerie céleste. Personne d'autre ne pouvait le faire, mais il le pouvait, lui, Jésus, en le faisant, il devenait la porte. Il est littéralement devenu la porte par laquelle les pécheurs peuvent s'approcher de Dieu. Il est la porte. Dans Hébreux 10, 19 et 20, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Par la toute nouvelle et vivante, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jésus est appelé une voie nouvelle et vivante. Il y a donc une seule porte, et Jésus est cette porte. Et je sais qu'aujourd'hui, en 2025, on n'aime pas entendre cela, parce que selon la pensée populaire, et même dans plusieurs églises chrétiennes contemporaines, tous les chemins, toutes les croyances, toutes les religions mènent à Dieu, au ciel et à la vie éternelle. Selon plusieurs, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'ils vont vivre sur cette terre, ils vont arriver dans l'au-delà, ils vont embarquer sur une pesée, puis si le mieux est plus pesant que le pire, ils vont rentrer. Mais c'est faux! Celui qui a donné sa vie en Jésus-Christ rentre dans la gloire céleste, pas à cause de ses propres bontés, mais à cause du prix payé par Jésus-Christ. Lui seul peut sauver un pécheur coupable. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre porte. Et même si moi, je n'ai pas eu une vie de bandit, de drogué, d'alcool, en 1987, j'ai réalisé que je n'étais pas assez bon pour mériter le ciel et j'ai reconnu que Jésus-Christ est mort pour moi. J'ai reçu son Saint-Esprit, je suis né de nouveau et aujourd'hui, 30 quelques années plus tard, je me tiens devant vous, vous disant et vous déclarant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il est la seule porte qui mène au ciel. Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages, il aura du stuff à manger, en d'autres mots. N'importe quel homme, n'importe quelle femme, n'importe quel enfant, de n'importe quelle origine sur la planète Terre a accès au Père céleste par Jésus-Christ. Cette porte est à la disposition de toute personne. Et oui, Dieu est assez puissant pour trouver une façon de se révéler, même à celui qui reste dans les fins fonds de cette terre. N'importe quel homme, n'importe quelle femme, cette porte est à la disposition. Riche, pauvre, homme, femme, santé, malade, citoyen de la planète Terre, tous peuvent prendre la porte. Alors, regarde ton voisin et dis-y, prends la porte. Fait que la prochaine fois que quelqu'un vous dit, prends la porte, tu dis, oh, merci, merci. Ou mieux encore, je l'ai déjà pris. Veux-tu la prendre toi aussi? Prends la porte, puis entre. Que veut dire entrer par la porte? Rappelons-nous que Jésus déclare être la porte. Et à la suite de la guérison de l'homme aveugle de naissance, après avoir été guéri par le Seigneur, l'ex-aveugle ne sait pas trop qui est celui qui l'a guéri. Bien qu'il ait été guéri, l'homme qui était aveugle ne savait pas encore qui était Jésus. La guérison, frères et sœurs, ne sauve pas. Cet homme aveugle a été guéri de son aveuglement. Il pensait que Jésus était peut-être un prophète. Et c'est juste que plus tard, quand Jésus s'est révélé à lui une deuxième fois, qu'il a reconnu que Jésus-Christ est Fils de Dieu, Sauveur. Au verset 17, on l'a vu, il répondit, c'est un prophète. Il répondit, si c'est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire, sûrement qu'il vient de Dieu. Et voulant en savoir plus sur celui qui venait de lui rendre la vue, il se rendit auprès de ses leaders, il cherche des réponses auprès de ses leaders religieux, ils sont trop ancrés dans la loi, et au lieu de lui répondre, ne connaissant pas eux-mêmes les pharisiens qui étaient Jésus, ils lui répondirent, « T'es né dans le péché, va-t'en, va-t'en, va-t'en. » Les pharisiens, les religieux condamnent sans présenter le chemin du pardon. Et c'est vrai, les religieux sont bons à condamner sans offrir le chemin du pardon. Et pendant longtemps, dans mon jeune âge, sans faire une longue histoire, j'étais abonné à une revue, ça s'appelait à l'époque « La pure vérité ». J'étais adolescent. On parlait de Dieu, du royaume de Dieu. Par contre, on insistait beaucoup sur la loi de Moïse, la fin des temps, le jugement, l'enfer. J'avais peur. Pourquoi? Parce qu'il n'offrait pas la porte de sortie en Jésus-Christ. Et c'est juste plus tard que j'ai compris ce qu'eux faisaient. Dans le fond, ils faisaient comme les pharisiens. Ils jugeaient, ils condamnaient, ils donnaient un portrait terrible de l'avenir sans offrir la porte Jésus-Christ. Et c'est alors que Jésus rentre en scène. Il apprit que les pharisiens l'a fait chasser, l'homme qui était aveugle, et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu que Jésus est pain de vie, lumière du monde, le seul qui peut te donner la vie spirituelle, le seul porte qui mène au ciel? » Il lui dit, « Oui, je crois. » Et à ce moment-là, l'aveugle a recouvré la vue spirituelle. Il est né de nouveau. Si vous étiez aveugle, au verset 39 qu'on a lu tout à l'heure, Jean 9, 39, « Puis Jésus dit, je suis venu dans un monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » En d'autres mots, il est en train de leur dire, vous n'êtes pas capable d'admettre que vous êtes aveugle spirituellement. Vous n'êtes pas capable de voir ma lumière, donc vous demeurez dans votre péché. Moi, je suis venu, non pas pour ceux qui voient déjà, mais je suis venu pour ceux qui sont prêts à reconnaître qui ne voit pas. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en santé spirituelle. Il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Si l'un ne reconnaît pas qu'il est aveugle spirituellement, son péché demeure. Mais si l'un le reconnaît qu'il est aveugle spirituellement, incapable de vivre selon la loi de Dieu, et reconnaît que Jésus-Christ a payé pour lui, il reçoit la vue, la vie éternelle. C'est ça qui est arrivé à Saul de Tarse. Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, qui, comme les pharisiens de notre histoire, était convaincu de l'avoir l'affaire. Il refusait de croire qu'il était aveugle. Après tout, il avait été élevé, selon la loi, auprès des plus grands enseignants. Il a été rendu, Paul, aveugle par Jésus. Voyez-vous le lien? Paul croyait voir. Jésus l'a rendu aveugle afin qu'il puisse voir. Comme il était en chemin qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Pourquoi me persécutes-tu? » Ananias est sorti, vous connaissez l'histoire, et je suis venu afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et au même instant, ses yeux, comme des écailles, recouvra la vue. Et si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous avez connu ça, les écailles ont tombé. « Mais c'est fait, pourtant, lis ma Bible avant, je ne comprenais rien. Là, je comprends, ça me parle assez fort. Je vois des affaires que je n'avais jamais vues. » C'est parce que les écailles ont tombé. Êtes-vous entré par cette porte? Est-ce que vos écailles sont tombées? Avez-vous reçu Jésus-Christ, lumière du monde, qui donne la vue? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Si oui, bien sachez que vous avez la chose la plus précieuse qui soit sur cette terre, plus précieux que l'or, plus précieux que l'argent, plus précieux que toutes les richesses de la planète Terre, la vie éternelle en Jésus-Christ. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et cette porte par laquelle nous entrons est une porte qui nous garde en sécurité. Jésus promet que quiconque entre par lui sera en sécurité. Le berger se couche sur le seuil de la porte. Il fait office de porte principalement, non pas pour dormir, mais pour veiller. Pour veiller afin qu'on soit en sécurité. Il dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Il sera en sécurité. » Et entrer et sortir à l'époque, ça ne veut pas dire un jour sauvé, le lendemain perdu, un jour sauvé, le lendemain perdu. Entrer et sortir pour le Juif à l'époque, ça voulait dire que la ville, le pays était en sécurité. Quelqu'un qui pouvait entrer et sortir, c'est parce qu'il était bien, c'était sécuritaire. Il pouvait rentrer dans la maison, sortir dans la maison, rentrer dans la ville, sortir de la ville, rentrer dans le pays, sortir de... Ils sont en sécurité. Et en Jésus-Christ, on est en sécurité. En d'autres mots, contrairement à vous, pharisiens, mes brebis qui rentrent par la porte ne sont pas mes prisonnières. Elles ont du lousse. Elles peuvent vivre. Elles peuvent s'épanouir. Elles ne vivent pas que pour des lois, des codes. Mange pas, goûte pas, touche pas, fais pas ci, fais pas ça, mets ta cravate, habille-toi de même, fais pas ci. Non! Elles vivent pour me plaire. Mais elles peuvent sortir et entrer sans être inquiétés. C'était la façon juive de parler de sécurité. Quand on décide de suivre Jésus-Christ, c'est vrai qu'un nouveau sentiment de sécurité nous habite. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre intérieur? Notre vie est entre les mains et sous les soins de notre Dieu, même quand ça va mal. Même quand ta femme ou ton mari est malade, même quand les enfants se rebellent, on peut avoir cette paix, cette sécurité à faire partie de la famille de Dieu, à vivre dans la bergerie de Jésus. Le Seigneur promet que ceux qui rentrent par la porte seront sauvés de la peine et du pouvoir du péché, de la vie égoïste, des voleurs, de la peur, de l'ignorance, de l'impuissance, de la faiblesse, de l'oppression, parce que notre porte, Jésus-Christ, nous libère. Marchons avec assurance, se rappelant constamment que Jésus est la porte de la bergerie. Encore? Ou j'arrête? Je vais conclure vite en disant, il est à la fois la porte, mais il est aussi le berger. Jean, verset 10 et 11, nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et dans l'histoire qu'on a lue, les pharisiens, les leaders religieux, étaient ceux qui devaient prendre soin des brebis du Seigneur. Mais en fait, ils les méprisaient. Ils les intimidaient. Ils les faisaient passer pour des menteurs, des pécheurs. Ils traitèrent l'homme qui était aveugle de pécheur. Ils chassaient ses parents au lieu de se réjouir de sa guérison miraculeuse. En fait, parce qu'ils ne voulurent pas rentrer par la porte, ils étaient en fait des voleurs, des brigands. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur. Et eux essaient d'entrer par la bergerie par une autre porte que celle de Jésus. Et Jésus, dans ce texte, se présente comme seul berger à la tête de son peuple. Jean 10, 11 nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le mauvais berger prend ta vie pour sauver la sienne. C'est comme un mauvais patron. Un bon patron va perdre sa job pour que tu gardes la tienne, si tu es honnête, évidemment. Un mauvais patron va faire perdre ta job pour se protéger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Arrangez-vous! Alors le loup s'en empare, les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Pour ceux qui entrent par la porte, Jésus est le bon berger. Et vous connaissez tous le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Et chaque matin, et je suis loin d'être un bon berger comme Jésus est, là, mais chaque matin, quand je promène mon chien, je l'amène sur le bord d'un ruisseau. Ça me rappelle toujours ça. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et j'écoutais un enseignement il n'y a pas tellement longtemps à propos de comment on oublie parfois que Jésus est notre bon berger, principalement quand on fait face à la mort. Qu'est-ce qui a hâte de mourir? Qu'est-ce qui aimerait ça être enlevé après-midi? C'est drôle, mais on va à la même place. Et il y avait cet homme qui avait très avancé en âge, dans les 90 avancés, et son pasteur va le visiter, et il ne voulait pas mourir. Parce qu'il voulait voir l'enlèvement. Il dit, « Non, moi, je veux voir l'enlèvement. » Mais là, le pasteur l'a regardé et dit, « Ben, je sais pas moi, mais enlèvement, si tu y penses comme il faut, c'est comme un gros voyage en autobus. Si tu te laisses aller, c'est comme un voyage privé. T'as un chauffeur privé, t'as Jésus, le bon berger, qui vient et qui te tend la main et qui t'apporte avec lui personnellement dans l'éternité. » Et dans l'après-midi même, l'homme, finalement, s'est laissé partir en voyage privé, avec un chauffeur privé. N'oublions pas cela, que Jésus est notre bon berger dans les bons temps, les mauvais temps, et face à la mort, que ce soit par l'enlèvement ou par la mort naturelle, on s'en va dans sa présence de toute manière. Amen. Jésus-Christ est notre porte, la porte exclusive pour entrer dans la bergerie. Et une fois que nous sommes rentrés dans cette bergerie, il est notre bon berger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je demanderai peut-être aux musiciens de s'avancer pour un dernier chant. Seigneur, on te remercie, Seigneur, que tu es notre bon berger, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu es venu un jour, Seigneur, que tu t'es fait homme. Tu as quitté ton royaume céleste. Tu étais depuis toute éternité. Tu nous as vus dans notre condition de perdition. Tu as pris la forme d'un homme, né de la Vierge, de naissance virginale, Dieu fait chair, le Verbe incarné. Tu as vécu une vie pure et sans tache. Tu es devenu le deuxième Adam, le nouveau représentant.